Bonjour, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour la suite de cette série consacrée à la préparation du postpartum. Nous allons parler de l'organisation du quotidien et surtout de comment aider ton corps à se réparer rapidement après l'accouchement. Maman Relax, c'est le podcast qui vous parle de la solitude ressentie en postpartum et surtout qui vous donne des clés simples et rapides pour vivre une maternité épanouissante. Je suis Florence, je suis sage-femme et j'ai hâte de passer ce moment avec vous. Je vais tout au long de cet épisode te donner des conseils simples et rapides pour mieux vivre ton postpartum. Si tu veux écouter sans t'inquiéter d'oublier les conseils, tu peux t'abonner au conseil de Maman Relax. Promis, je vais pas t'envoyer un mail chaque jour, il y en aura juste un le jeudi après la publication du podcast. Et le lien pour t'abonner se trouve dans la description de l'épisode. Alors, je suis très heureuse de te retrouver pour la suite de cette série sur la préparation du postpartum. Aujourd'hui, on va s'intéresser à ton quotidien, à ce que tu vas pouvoir mettre en place durant ta grossesse, souvent en fin de grossesse, pour te faciliter la vie une fois que bébé sera là. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, j'ai une super nouvelle. À partir du mois de juin, je vais pouvoir ouvrir quelques places pour t'accompagner dans ton postpartum. Donc si tu vis des difficultés, que tu as besoin de soutien ou qu'il y a une problématique précise que tu souhaites régler, tu peux me contacter. Je t'offre un espace de parole, de soutien, d'écoute, bref, un accompagnement personnalisé et bienveillant. Comme je te le disais dans cet épisode consacré à la suite de la préparation postpartum, aujourd'hui on va aborder le sujet qu'on préfère, l'organisation de la maison et la charge mentale qui est liée. Qui dit maison dit repas et parfois on l'oublie, mais l'alimentation est le meilleur médicament qu'il puisse exister pour ton corps. Alors comment aider ton corps à se réparer grâce à l'alimentation après avoir accouché et pourquoi c'est important que tu puisses avoir une alimentation de qualité? Alors pourquoi c'est intéressant d'organiser ça directement en fin de grossesse, parce que tu peux te dire que ça peut attendre, que tu verras bien une fois que bébé sera là. Mais finalement, tout changement demande un minimum d'énergie, de réflexion et de période d'adaptation. Or, une fois que bébé sera né, tu ne disposeras plus de ces trois choses. Tu risques d'être fatigué, d'aller au plus vite, de faire ce que tu connais et de ne pas avoir l'énergie pour intégrer un changement. Concrètement, qu'est-ce qui va changer une fois que bébé sera né ? Ta charge de travail va augmenter. Tu auras plus de linge à laver, tu vas avoir plus de rangements à faire, tu auras moins de temps, moins d'énergie, et tu vas avoir aussi besoin de temps pour t'occuper de ton enfant. Alors je te conseille de te poser, de réfléchir à ton organisation actuelle. Tu peux te demander comment optimiser ton temps. Est-ce que certaines choses peuvent être faites moins souvent, faites différemment, faites plus rapidement, s'il y a des choses qui sont super importantes pour toi et que t'as pas envie de laisser tomber ou de mettre de côté, tu peux te demander est-ce que je les fais de façon optimale, est-ce qu'il y a une autre méthode pour les faire pour que ça prenne moins de temps et moins d'énergie, bref comme je te disais, où est-ce que je peux gagner du temps. Alors comment gagner du temps pour les repas? Pour commencer, tu peux préparer des repas à congeler pendant ta grossesse pour avoir de la nourriture de qualité une fois que ton bébé sera né. Ensuite, tu peux demander à tes proches de t'apporter des repas lors des visites. Si tu as des visites le soir ou pour le goûter, tu peux leur demander d'apporter le repas. Si t'es pas à l'aise avec l'idée de dire « Est-ce que vous pouvez m'apporter des repas pour mettre dans mon congélateur ?» Après, normalement, si c'est des très proches, tu peux dire ce genre de choses, il n'y a pas de souci. Mais voilà, si t'es pas à l'aise, qu'au moins ils apportent le repas pour le jour même quand ils viendront. Parce qu'après une nuit difficile, t'auras autre chose à faire que de passer ton après-midi en cuisine pour recevoir tes invités. Et une fois bébé né, pense à cuisiner le plus simplement possible, à faire des portions en plus pour pouvoir les congeler et passer moins de temps en cuisine au quotidien. Crée-toi une liste de courses pour être plus rapide au magasin et que tu puisses déléguer les courses si c'était toi qui les faisais d'habitude. Si tu fais une liste, au moins la personne qui ira les faire à ta place pourra acheter ce dont tu as besoin sans question, sans t'appeler tout le temps pour te dire « Ah donc les pâtes, tu veux quelle marque? Tu veux quelle forme ?» Bref, tu vois de quoi je parle. Si c'est possible de faire tes courses en ligne, c'est toujours une option dans un objectif de gain de temps. Alors oui, tu pourras pas faire le tour des petits producteurs, mais si ça te permet de te libérer du temps pour une période définie, c'est-à-dire ton postpartum, ça peut être une possibilité. N'hésite pas à faire un inventaire de tes armoires pour acheter en avance ce dont tu auras besoin pour les prochains mois, par exemple des produits ménagers, des denrées non périssables. Si tu sais que vous mangez un paquet de pâtes par semaine, tu prévois d'en avoir suffisamment. Comme ça, tu n'auras pas besoin de t'en inquiéter une fois que bébé est là. Au moins pour les premières semaines, les premiers mois, quand finalement tout est nouveau avec ton enfant, te demande de l'énergie, une grande adaptation. Le but ici, c'est d'économiser du temps et de l'énergie sur des choses qui roulent déjà et qui sont déjà connues, qui sont déjà intégrées, pour pouvoir te libérer pour devenir maman quelque part. Donc ça peut paraître dérisoire de faire ce genre de choses, mais finalement, tu verras qu'une fois que ton bébé sera là, te demander ce que tu vas manger, savoir ce que tu vas préparer comme repas, prendre du temps pour aller cuisiner, pour nettoyer, des choses comme ça, ça sera peut-être la dernière de tes préoccupations. Malgré ça, il faut que tu puisses manger et que tu aies une alimentation de qualité. Et donc c'est intéressant de prévoir toutes ces choses-là en amont pour que ces choses finalement roulent toutes seules, continuent à avancer toutes seules et que toi tu sois libre pour te découvrir en tant que maman, pour t'occuper de ton bébé et pour essayer de te reposer un maximum. Si ton conjoint ne cuisine pas, bah, il est temps qu'il s'y mette, hein. Il a 9 mois pour apprendre. On va dire 8, le temps d'apprendre la grossesse, etc. Et le temps qu'on commence à penser à l'avenir une fois que bébé sera né. Mais il a quand même plusieurs mois pour apprendre les bases de la cuisine, si c'est pas le cas. Et s'il sait cuisiner mais qu'il aime pas, bah, il a plusieurs mois pour se dire « Ok, je sais pas ce que je préfère faire, mais c'est important que je puisse le faire pour trouver un équilibre dans les tâches quotidiennes. » Le temps de la grossesse, c'est un temps préparatoire pour toi, mais aussi pour ta famille et tes amis. Donc comment faire pour les impliquer dans ton quotidien et pour que leur présence soit une véritable aide une fois que bébé est né? Il y a une chose très sympa que tu peux faire avec tes proches, c'est une après-midi cuisine. Alors oui, dit comme ça, ça n'a pas l'air super drôle, ça n'a pas l'air super sympa, mais je te promets que ça peut l'être. Tu peux réunir 4-5 amis et leur proposer de venir cuisiner chez toi. L'objectif, c'est vraiment de remplir ton congélateur un maximum pour ton postpartum, pour que les premières semaines, t'aies pas à t'inquiéter, que par exemple, les légumes soient cuits, la soupe soit faite, que les grosses préparations soient faites et que t'aies juste peut-être à cuire des pâtes ou rajouter un aliment, mais que vraiment le maximum soit fait pour te faire économiser du temps une fois que bébé sera là. Alors tu peux faire une liste des plats que tu aimes tout en intégrant des recettes spécifiquement bénéfiques au postpartum. Par exemple des soupes, des bouillons. Après la naissance, ton corps va avoir besoin de chaleur, de liquide et d'une alimentation de qualité pour se réparer. Cet après-midi sera l'occasion pour toi de passer un moment avec tes proches tout en remplissant rapidement ton congélateur. Et pour l'organisation, je te conseille de faire une liste de courses qui sera donnée à une des personnes présentes ce jour-là ou à ton compagnon pour que cette personne fasse les courses, parce que si tu peux éviter de faire des grosses courses seule en fin de grossesse, c'est toujours préférable. Demande à tes proches aussi de prendre un couteau, un épluche-légumes et des planches avec elles, sinon vous risquez d'être bloqué simplement par le manque de matériel si t'as pas 5 planches, 5 économes et, et plein de couteaux chez toi. Ce serait dommage qu'elles soient là, mais que finalement vous puissiez pas cuisiner parce qu'il manque du matériel. Et pour le nombre de personnes que tu invites, essaye de tenir compte de l'espace disponible dans ta maison et dans ton congélateur. Ou alors de proposer par exemple, si tu vois que c'est trop juste chez toi, qu'elles pensent aussi à prendre des tupperwares si t'en as pas assez. Si tu vois que c'est trop juste chez toi, tu peux leur proposer de reprendre une partie des plats, de les congeler, et comme ça, quand elles viennent te voir en postpartum, elles ont déjà un plat tout prêt à t'apporter. Et un plat que vous avez fait ensemble, et que tu sais qui est ok, qui est dans tes goûts et que tu aimes, et elles ont pas vite, parce que souvent, les gens aussi, ils ont une vie. elles ont peut-être des enfants, elles ont peut-être un quotidien chargé, et elles auront peut-être pas le temps de passer quelques heures en cuisine avant de venir te voir pour t'apporter un repas de qualité ce jour-là. Donc ça peut être très sympa qu'elles reprennent, vous fassiez des grandes quantités, qu'elles reprennent chacune un ou deux plats, et comme ça quand elles viennent te voir après, elles les apportent, et tu sais que t'as à manger et que c'est des choses que tu aimes. Ne te compte pas parmi les personnes qui vont cuisiner, parce que si tu es en fin de grossesse, tu risques d'être fatiguée, d'avoir des douleurs qui vont te gêner. Si tu dois rester longtemps debout ou assise, on sait qu'en fin de grossesse, des fois c'est difficile, que t'as mal au bas du dos, que t'as des douleurs ligamentaires, que simplement t'es fatiguée et souvent la position allongée te convient mieux. C'est pour ça que je te dis, ne te compte pas dans les personnes qui cuisinent, le but c'est de passer un bon moment, d'être avec tes copines, tes amis, tes proches, de discuter, tout en ayant ton congélateur qui se remplit tout seul. C'est pour ça que c'est une très bonne journée et puis tout le monde sera ensemble à discuter, à rigoler, à parler de l'avenue de cet enfant. Voilà, c'est un chouette moment à passer tout ensemble. Je te parle beaucoup de repas, d'alimentation, mais c'est parce que c'est vraiment, comme je le disais, particulièrement important toute la vie, mais encore plus enceinte et en postpartum. Alors pourquoi est-ce que ton alimentation est particulièrement importante en postpartum? Pour commencer, la grossesse a puisé dans tes réserves pour permettre à ton bébé de bien se développer. T'as peut-être pris des compléments alimentaires ou pas, parce que des fois les vitamines de grossesse, ça fait vomir, donc on les arrête, on oublie de les reprendre. Ou tu les as prises, mais tu peux avoir des carences qui se sont créées ailleurs. Et ensuite, l'accouchement, c'est similaire à un marathon. Pour le corps, quand tu fais un marathon, on a Avant de faire un marathon, on a une hygiène de vie irréprochable, on dort suffisamment, on mange suffisamment, on a une alimentation de qualité pour soutenir les efforts du corps et éviter de se blesser et avoir par la suite une meilleure récupération. Alors déjà là, il y a un truc qui va pas. Tu t'apprêtes à faire un marathon, si t'es en fin de grossesse, tu sais que le sommeil en fin de grossesse, c'est pas génial. L'alimentation, les envies, l'équilibre, des fois c'est pas génial. T'es pas reposé, t'as pas toujours une alimentation de super super qualité. Et t'as pas forcément toujours une hygiène de vie irréprochable parce que t'as peut-être déjà un premier enfant dont il faut s'occuper, t'as un rythme de vie, tu vas au travail, t'as des choses à faire. T'es pas dans la préparation d'un marathon et malgré tout c'est ce que tu vas vivre pour donner la vie à ton enfant. Alors toi après ton marathon, tu vas le faire et normalement le sportif il va se reposer, il va s'alimenter, il va dormir, il va récupérer, il va permettre à son corps de se réparer. Toi après ton marathon, je suis désolée hein, mais tu vas enchaîner peut-être les nuits écourtées, le manque de temps, la fatigue. Si t'as rien prévu pour ton alimentation en amont, ben tu vas... Par manque de temps et d'énergie, manger des choses les plus rapides et les plus simples possibles, qui seront pas toujours qualitatives. Tu risques de craquer sur les pizzas, ou de commander à manger, ou de faire vraiment des plats rapides et sains et simples, qui seront pas forcément ce dont tu as besoin, et ce dont ton corps a besoin pour aller mieux. Après avoir accouché, tu vas perdre du sang, tu vas perdre une grande quantité de liquide. T'as une grosse perte de liquide, et il va falloir que tu puisses compenser ça, et que tu t'hydrates suffisamment. Si en plus tu décides d'allaiter, et que ton allaitement se met en place, eh ben, tu vas aussi encore avoir besoin de t'hydrater plus. Tu vas avoir besoin de nourrir ton corps correctement pour qu'il puisse nourrir ton enfant sans que ce soit à ton détriment. Parce qu'en soi, ton lait, il sera de qualité, ton bébé, il va bien aller, mais c'est ton corps qui va s'appauvrir et c'est ton corps qui va se carencer. Si tu es carencé, que tu es fatigué, tu vas avoir du mal à récupérer, tu vas être encore plus fatigué et c'est un cercle vicieux quelque part. Voilà pourquoi ton alimentation est particulièrement importante. Ton corps doit se réparer suite à la grossesse, se réparer suite à la naissance et nourrir ton bébé. Quand je vois les plateaux donnés à la maternité, parfois je me demande vraiment si les nutritionnistes savent ce que c'est la grossesse, ce que c'est le postpartum et à quel point l'alimentation de la mère va jouer sur sa santé et que c'est important qu'elle puisse se nourrir correctement. Une maman qui se nourrit bien va mieux se remettre de la naissance, résistera mieux au manque de sommeil. Bref, c'est super important. Et après l'accouchement, tu reçois deux pauvres tartines avec un petit pot de confiture et de beurre, ou alors, si t'as de la chance et que c'est le bon moment de la journée, t'as un repas chaud, mais c'est pas la folie, c'est pas super équilibré, c'est pas toujours très nutritif. Bref, ça c'est une parenthèse, mais c'est aussi une aberration quelque part, parce que l'alimentation va te permettre de te rétablir, et si même au sein de l'hôpital, l'alimentation qu'on propose n'est pas correcte, bah ça n'a aucun sens. Désolée, mais à chaque fois que j'y pense, ça me perturbe. Comment faire pour avoir une alimentation de qualité après l'accouchement? Parce que je te parle de ça, mais je t'ai pas encore donné des petites idées. Alors tu peux manger des poissons gras type sardines, maquereaux, anchois. Ils sont une bonne source d'oméga 3 et les oméga 3, ton bébé en a puisé dans tes réserves pour développer sa rétine et son cerveau. Et en plus, ces poissons-là sont faibles en mercure, parce qu'il y a des poissons qui contiennent du mercure, donc il faut faire attention aussi à ça. Après la naissance, le temps que tous les organes se remettent en route, que le transit reprenne son habitude, qu'il reprenne tout court, il y a un risque d'avoir de la constipation et des hémorroïdes par la suite. Et il y a aussi le côté où t'as peut-être eu une déchirure, où t'as peur d'aller à la toilette. Et donc c'est très fréquent que les mamans après la naissance soient constipées parce qu'elles se retiennent, qu'elles ont peur d'avoir mal, que des fois elles ont peur de laisser bébé parce que... Franchement, ça c'est une anecdote à la maternité. Et si tu vis ça, n'aie pas peur, n'aie pas honte, les sages-femmes ont l'habitude. Moi, ça arrivait souvent qu'on me demande de garder un bébé. Et au début, quand je venais de commencer, je comprenais pas pourquoi. Genre, le bébé il dormait, il était dans son berceau et il était dans la chambre et la maman voulait juste. Elle me disait, je veux juste prendre ma douche. Et en fait, je me demandais pourquoi. Et après, je parlais avec des sages-femmes plus anciennes, elles m'ont dit, En fait, c'est l'angoisse pour les jeunes mamans d'aller à la toilette la première fois, de faire caca, clairement, on va dire le mot. Et donc, c'est déjà un moment qui est angoissant, qui est stressant. Tu sais pas trop comment ça va se passer au niveau de ton corps. Il y a beaucoup de mamans qui ont peur de ça. En plus, si t'as l'angoisse que ton bébé il se réveille à ce moment-là, c'est pas possible, quoi. Et donc, souvent, c'est pour ça qu'elle dit « Ah, je peux vous le laisser pour aller prendre ma douche ou quoi ?» Et moi, je me dis « Mais il dort. » Enfin... Et quand tu seras dans ta maison et que tu dois prendre sa douche et qu'il dort dans sa chambre, bah, il dort. Mais en fait, non, c'est juste qu'elle devait aller faire caca et que elle avait peur d'être interrompue ou d'être stressée par le fait que leur bébé soit à côté. Donc elle préférait qu'on le garde. Donc pour ça, tu peux essayer de manger 2 poires par jour. Ça améliore le transit, ça réduit le risque de constipation et donc le risque d'hémorroïdes. Et les poires sont super riches en fibres naturellement et naturellement laxatives. Tu peux aussi boire du bouillon de volaille, il va aider ton corps à se réparer et à t'hydrater. Si tu allaites, comme je le disais avant, tu vas avoir besoin de t'hydrater beaucoup. Tu verras de toute façon, si tu le fais pas correctement, tu auras super soif au moment où tu allaites. Et dans le bouillon de volaille, il y a plein de choses qui vont aider tes tissus à se réparer. Et aussi le fait de boire chaud après la naissance, ça fait beaucoup de bien à ton corps. Donc quand tu as soif, pense aussi à boire quelque chose qui va apporter, qui va être bénéfique pour ton corps. Si tu bois juste de l'eau, bah, c'est bien de boire de l'eau. Mais n'hésite pas à boire des tisanes, des soupes, des bouillons qui vont nourrir ton corps plus profondément et t'apporter la chaleur dont tu as besoin. Tu peux aussi consommer des fruits à coque et du chocolat pour le magnésium. Une carence en magnésium peut se manifester par une fatigue excessive. Et si on peut éviter une fatigue supplémentaire en postpartum, on n'est pas contre. Tu peux aussi consommer des graines de courge qui, pour lutter contre la fatigue, elles sont riches en fer et en magnésium. Tu peux les manger en apéritif, les parsemer sur ta salade ou les mettre dans tes soupes. Donc voilà, ça c'est une petite base qui va t'aider à améliorer la qualité de tes repas en postpartum et te permettre d'avoir une meilleure récupération. Je ferai un mail global pour résumer tous les conseils sur la préparation du postpartum. Et dans ce mail, je te mettrai une recette de bouillon de volaille que tu peux faire facilement et que tu peux après par la suite congeler et boire tout au long de ton postpartum pour aider ton corps à se réparer correctement. Alors ensuite, on va finir par un autre gros point, le ménage. Comment gagner du temps dans l'entretien de ta maison? Tu peux commencer par regarder si tout ce que tu fais est nécessaire, si le rythme auquel tu le fais est nécessaire. N'hésite pas à faire un planning des tâches quotidiennes, les plannings finalement. Des fois, c'est embêtant à faire, mais ça te fait gagner du temps par la suite parce que tu as juste à regarder ta feuille. Ok, aujourd'hui, je dois faire ça. Ok, je le fais. Voilà, charge mentale diminuée. Si aspirer est une corvée pour toi et que tu sais que t'as pas le temps ou que c'est vraiment quelque chose, par exemple physiquement, des fois en fin de grossesse, c'est difficile, le fait de se pencher un peu pour aspirer, ça fait mal au ventre, ça peut provoquer des contractions qui vont pas avoir d'effet sur le col, mais c'est des contractions, ça te fatigue. Et si t'avais l'idée d'acheter un robot aspirateur, bah, c'est peut-être le moment de le faire, ça va te permettre d'avoir une maison propre sans perdre de temps. Tu peux le programmer pour que le matin, avant ton lever, il passe l'aspirateur et comme ça t'as une maison propre tous les jours par exemple. C'est une idée, c'est pas du tout une obligation, hein, mais c'est quelque chose qui réduit ta charge mentale et le temps que tu vas passer pour nettoyer. Alors tu peux mettre sur ta liste de naissance aussi des bons pour une technicienne de surface ou demander de l'aide simplement à tes proches en fonction du degré de proximité que vous avez. Mais tu peux demander à ta sœur de passer l'aspirateur quand elle vient à la maison, quoi. C'est pas la fin du monde, tu le ferais pour elle, bah elle peut le faire pour toi. Et ça te permet toi d'alléger ton quotidien. Et en fonction du nombre de tes enfants et de leur âge, tu as droit aussi à des aides pour le quotidien une fois que tu as accouché. Et au niveau de la gestion du linge, pense à avoir suffisamment de vêtements pour bébé et pour toi, pour ne pas te retrouver stressé par le linge. Et encore plus si tu as un enfant qui a tendance à régurgiter, à avoir du reflux. Et de toute façon, la majorité des enfants, les premières semaines, surtout les premières semaines, font des cacas explosifs. Et tu te retrouves souvent à devoir changer ton enfant plusieurs fois par jour parce qu'il a bu, il a bien régurgité. Et puis un beau caca explosif. Et donc, il faut suffisamment de vêtements au début. Et si par exemple, ça t'inquiète pas pour le côté financier, par exemple, il y a énormément de vêtements de seconde main en super état pour les bébés parce que on prévoit toutes suffisamment de vêtements et certaines mamans en ont vraiment besoin et d'autres moins. Ou alors certaines prévoient suffisamment de vêtements pour toutes les tailles et bébé est grand, il n'utilise pas les premières tailles. Parfois, on met longtemps le 1 mois et les 3 mois, on n'a pas le temps de le mettre, qu'on passe aux 6 mois, et poussée de croissance qui passe par là, et tu te retrouves avec plein de vêtements qui sont neufs et en super état, que tu peux revendre. Toi, ça te fait une toute petite rentrée d'argent, et surtout, ça peut permettre à une maman qui n'a pas les moyens ou l'envie d'acheter du neuf, d'habiller correctement son bébé. Voilà, pour finir cet épisode, j'avais envie de te partager un post, un article ou une vidéo découverte sur les réseaux sociaux. Cette fois, exceptionnellement, je ne vais pas te partager un post ou un article. C'est ce que je viens de dire, mais voilà, j'ai changé d'avis au moment de la création de cet épisode parce que J'ai envie de te partager une chose que je constate quotidiennement sur les réseaux. Régulièrement, je vois des personnes qui s'autoproclament spécialistes en je ne sais pas quoi, dire aux parents ce qu'ils doivent faire avec leurs enfants, les faire douter, les inquiéter, ou pire, leur donner des conseils qui sont réellement dangereux. Donc j'ai envie de te dire, quand tu vois une information qui t'interpelle, cherche un peu plus loin, regarde le contenu général de la personne. Cherche un article, une recommandation, une formation, une qualification qui appuie ce que la personne te dit, et même après ces vérifications, tu peux recevoir des mauvaises informations. Une personne peut avoir suivi une formation qui est super mais qui ne correspond pas à tes besoins ou à ton enfant, et c'est ok. Mais je pense que c'est vraiment important de te rappeler que tu as ton libre arbitre, que tu peux choisir, que tu peux t'interroger, que tu peux remettre en question ce que tu lis et ce qu'on te dit. Et je dis que tu peux, mais que tu dois. Et aussi, s'il y a un contenu qui te fait culpabiliser, qui te fait se sentir mal, qui te fait trop te remettre en question, qu'à chaque fois que tu le vois, tu te dis « Ah oui, mince, j'aurais dû faire ça, ah mais ça va pas chez moi, nanana », alors qu'avant tu te sentais bien, arrête d'aller sur ce compte. Quitte-le, supprime-le, bloque-le, fais ce que tu veux, mais arrête d'aller consommer cette information. Si ça t'apporte rien de positif, tu arrêtes. C'est comme dans les relations dans la vie, hein, quand tu rencontres quelqu'un et qu'il t'apporte que du négatif au quotidien, bah, tu décides de pas rester en contact avec. Et sur les réseaux, malheureusement, je sais pas pourquoi, il y a le côté où il y a beaucoup de gens qui sont sur des comptes qui ne leur apportent rien de positif, mais qui continuent à y aller. Donc il y a un moment, il faut se poser la question aussi sur ce que tu peux consommer et est-ce que ça te correspond vraiment, est-ce que ça correspond à ton quotidien, à tes envies. Peut-être que ça te correspondait il y a quelques mois, quelques années, mais que tu as évolué, que ça te correspond plus. Et donc à un moment, c'est aussi intéressant et important de faire le tri sur ce que tu consommes de façon générale, sur Internet, sur les réseaux sociaux. Et par rapport aux recommandations, aussi parfaites qu'elles puissent être, parfois elles peuvent ne pas te correspondre. Toutes les femmes sont uniques, tous les bébés le sont. Et c'est impossible qu'un contenu parle à tout le monde, et c'est normal. On a tout un quotidien différent, on a toutes des valeurs qui sont des fois similaires mais différentes. On a des envies, des besoins qui sont différentes. Et si je te dis, oui, il faut que... Je suis encore en train de chercher un exemple de balle pour vraiment bien illustrer ça. C'est super important que pour que ton enfant mange équilibré, qu'il mange une tranche de pain de seigle par jour, nanana, ça a plein de vertus pour l'alimentation, pour les intestins et tout. Et si toi, ton enfant, il est allergique au seigle, bah tu vas pas lui donner. Enfin voilà, c'est ça. Je te prends un exemple super gros pour que tu vois ce que je veux dire, mais simplement, comme je te dis, il faut que tu vois si les conseils sont adaptables à toi, à ton quotidien, à ton enfant, à ta réalité, simplement. Et c'est pas parce que une activité ou un contenu est proposé et que ça marche chez tout le monde et que ça a l'air super génial, ça a l'air, hein, je dis bien que ça a l'air super génial, que toi tu l'essaies, que ça fonctionne pas, que t'es bizarre ou que ton enfant est anormal ou en retard parce que l'activité plaît à tous les enfants mais que lui ça l'intéresse pas. Non, chaque personne a ses affinités, a ses stades de développement, chaque enfant. Et entre ce qui paraît sur les réseaux et ce qui est, il y a encore une grande marge, une grande différence. Et donc ne te remets pas en question et ne te blesse pas pour des choses finalement dont t'as pas tous les tenants et les aboutissants. J'ai vu des mamans se demander si leur bébé carrément, même pas des enfants, si leur bébé était atteint de troubles du spectre autistique, après avoir consommé des contenus sur les réseaux sociaux, de se retrouver inquiète et à poser des questions. Des mamans qui s'inquiètent concernant le développement de leur enfant à cause des réseaux sociaux. Alors rappelle-toi vraiment que c'est pas la vraie vie, que n'importe qui peut écrire ce qu'il veut malheureusement, que faire des montages pour faire passer un message, c'est facile, et que surtout, chaque enfant évolue à son rythme. J'ai un enfant, par exemple, qui a marché très tôt, mais qui a parlé un peu plus tard, et à contrario, t'as un enfant qui va parler super tôt et qui va marcher un peu plus tard, et c'est ok, quand ils ont 5 ans, on ne saura pas qui a parlé le premier, qui a marché le premier, et on s'en fiche, ils auront évolué à leur rythme, et c'est ok. Mais en attendant, derrière, t'as des mamans qui s'inquiètent, qui se creusent la tête, qui se demandent ce qui va pas chez leur enfant, alors que tout va bien et que simplement, il évolue à son rythme. Voilà, sur cette note réseaux sociaux, on va arriver à la fin de cet épisode. J'espère qu'il t'a plu. Si c'est le cas et que t'as 2 minutes, n'hésite pas à donner une note à mon podcast ou à le partager sur tes réseaux sociaux ou aux femmes que tu connais, ça me ferait vraiment plaisir. Et surtout, ça pourrait aider d'autres mamans. Si t'es intéressé pour des séances sur le postpartum à partir du mois de juin, n'hésite pas à m'écrire sur Instagram, sur Maman Relax, pour avoir toutes les informations et t'inscrire sur la liste d'attente. Et c'est là qu'on se quitte. On se retrouve lundi prochain pour un nouvel épisode de Maman Relax. D'ici là, portez-vous bien.